Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I remember the night John suggested that we ought to go on a little trip. I had visions of luxury and love. And what do you think I got?
Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un superbe coffret paru chez Elephant Film. D'ailleurs, on fait un petit coucou, on remercie Victor Lopez pour cette superbe sortie. Ce coffret, c'est Mitchell Leisen, portrait d'un esthète. Il nous présente un cinéaste qu'on ne connaît pas, en fait, un cinéaste de l'âge d'or hollywoodien qui était tombé dans l'oubli. Et dans ce coffret, dès qu'on parle d'âge d'or hollywoodien et qu'on est chez Elephant Film, eh bien, tout de suite, c'est De Niro Sano qui va nous signer un livre. C'est même plus un livret, là c'est un livre, hein, ça fait quasiment une centaine de pages. Et ça s'appelle « Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif », dans lequel, avec sa plume, très aiguisé. De Niro Sano nous révèle plein de choses. De toute façon, il ne fait que nous révéler des choses parce qu'on ne connaît pas ce cinéaste, en vérité, Mitchell Leisen. Et moi, ce que je vous propose, parce que bon, pourquoi est-ce que c'est moi qui vous en parlerai alors que celui qui connaît mieux Mitchell Leisen, donc De Niro Sano, nous l'avons interviewé. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter cet entretien que nous avons eu avec De Niro Sano. Au sujet de l'ouvrage Mitchell Leisen, Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif, donc qui est dans le coffret Mitchell Leisen, édité par Elephant Film, qui présente 10 films. Vos oreilles, je vous préviens un peu, on a eu des petits soucis techniques dans la liaison avec les États-Unis. Et du coup, par moments, ça grésille un peu, mais bon, on va faire avec. Parce que l'échange est passionnant et De Niro Sano a plein de choses intéressantes à nous dire sur Mitchell Leisen. Donc tout de suite, De Niro Sano au micro de Culture Prohibée. Bonjour De Niro Sano.
Bonjour Jérôme.
Alors De Niro Sano, vous êtes de nouveau avec nous parce que, une fois de plus, vous avez collaboré avec Elephant Film dans le cadre d'un coffret consacré à Mitchell Leisen en écrivant un petit livre qui s'appelle « Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif » qui est donc dans ce coffret consacré à Mitchell Leisen et donc sorti par Elephant Film. Alors avant d'aborder Mitchell Leisen, ouais, peut-être on peut revenir sur David, alors que moi j'ai découvert grâce à votre ouvrage là, sur David Cherit. Chetti, je ne sais pas si je le prononce bien,
qui a quand même permis. Je ne sais pas si c'est Thierry Chetti ou Thierry Chetti, je ne suis pas sûr.
Oui. On est pareil, on a un doute là-dessus, ouais. Mais en tout cas, cet homme est important dans la redécouverte de Mitchell Leisen.
Oui, c'est quelqu'un qui était très très jeune quand il s'est lancé dans ce projet. En fait, c'était un jeune étudiant, une vingtaine d'années à peine, fasciné par le cinéma de la grande époque hollywoodienne. Et homosexuel, et qui en fait est tombé sur les films de Mitchell Leisen qui étaient totalement oubliés, qui végétaient dans cette espèce de lieu où toutes les stars vieillissantes ou sans argent ou malades se retiraient. Et il a été le retrouver, et en fait, il a eu avec lui des entretiens Il a réussi en fait à nourrir une amitié qui fait que Mitchell Leisen s'est ouvert à lui, lui a raconté tous ses souvenirs, et il en est ressorti un livre qui est passionnant. C'est une biographie qui est sortie en 73, je crois, passionnante, et c'est ça qui a permis en fait à toutes les générations futures de cinéphiles de comprendre et de découvrir le cinéma de Mitchell Leisen, parce qu'il était littéralement non seulement oublié, mais j'ai envie de dire éradiqué en fait. On en revient des choses dont on pourra parler, par une homophobie latente, ou plus ou moins latente, qui régnait à Hollywood, par le fait que ces films en fait étaient considérés comme des bagatelles kitsch, alors qu'ils sont beaucoup plus que ça. Et ça a pris du temps, en fait. Le travail de Thierry Chetty est passionnant, mais il n'a pas abouti immédiatement à une redécouverte. En fait, la redécouverte a été graduelle, et elle est encore en cours, je trouve. C'est pour ça que je trouve que ce coffret est vraiment important pour les cinéphiles et pour les gens qui aiment le vrai cinéma, parce que c'est... une porte ouverte sur un artiste immense et sur des films dont certains ont été totalement, j'ai envie de dire, oubliés et qui méritent d'avoir une place vraiment dans le panthéon du cinéma hollywoodien.
Alors justement, en plus, le coffret s'appelle Mitchell Leisen, Portrait d'un esthète. Alors moi, j'ai découvert, du coup, en lisant là, l'ouvrage Mitchell Leisen, Gloire, discrédit, oubli d'un esthète subversif, qu'en fait... C'était presque, en fait, un esthète, c'était presque une insulte, en fait. C'était un terme sous-jacent d'une homophobie latente, quoi. C'était, en fait, c'est pour ça que c'est une super idée d'avoir appelé ce coffret comme ça.
Complètement, c'est-à-dire que l'esthétisme des films de Mitchell Leisen est évident. Je pense que s'il y a vraiment un fil conducteur dans tout son cinéma, parce qu'il a touché à tous les genres, c'est son esthétisme qui est flagrant et qui parfois est même il se laisse aller et c'est fascinant à regarder. Le mot esthète est un peu c'est un peu l'équivalent entre guillemets de PD pour beaucoup de gens à Hollywood à l'époque, et donc on va lui reprocher cet esthétisme qui est associé aussi, par exemple. Il a commencé sa carrière en tant que costumier. Costumier, c'est donc c'est la beauté des vêtements, des costumes et tout. Ça aussi, c'est de l'esthétisme. Et beaucoup de costumiers étaient effectivement homosexuels à l'époque. Ils étaient essentiels à la fabrication des films, mais ils n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Et quand ces gens-là deviennent réalisateurs, c'est considéré comme... Mais un costumier ne peut pas être réalisateur, évidemment, c'est pas possible. Et donc, quand en plus il s'affirme comme un très grand réalisateur, ça provoque des jalousies, ça provoque des colères. Et tout ça, c'est assez intéressant, la manière dont Hollywood, les studios fonctionnaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de permissivité dans les années 20, 30, 40, où il y a pas mal, en fait, de réalisateurs, de techniques sexuelles. Quelqu'un comme James Whale ou quelqu'un comme Mitchell Leisen sont assez flamboyants, ils ne se cachent pas. Quelqu'un comme George Cukor, qui est lui complètement homosexuel aussi, lui va mener une vie très 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 discrète. Il sait pas qu'il se cache, mais il n'affiche pas son homosexualité. Et du coup, la carrière de George Cukor va durer beaucoup plus longtemps et il aura une reconnaissance que ni Leisen ni James Whale ne vont avoir de leur temps, en fait.
Alors après, Leisen, ok, un costumier peut pas devenir cinéaste, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est aussi le directeur artistique de Cécile B2000, le signe de la croix, par exemple. D'ailleurs, on peut le dire, je pense qu'on peut le dire, que les films de Cécile B2000, quand il y a Mitchell Leisen, qui est son directeur artistique, puis après son assistant réalisateur, voire les deux, et les films qu'il fera sans lui, bon, c'est pas pareil quand même.
Absolument. Alors, il y a un historien du cinéma qui dit qu'en fait, Mitchell Leisen, en fait, a été un peu Cécile B2000 a été le mentor de Mitchell Leisen. Il l'a pris sous son aile et il l'a fait travailler sur beaucoup de ses films, notamment en temps du muet. Et en fait, ils ont une similarité, c'est-à-dire qu'ils aiment le luxe et ces films très, très majestueux, mais en même temps, la difficulté Cecil B. DeMille est plus dans l'emphase et que Michael Eisen est plus dans une espèce de grâce et d'élégance. Et justement, il apporte cela au film auquel ils ont collaboré, sur lequel ils ont travaillé ensemble. Le signe de la croix qui est inclus dans le coffret et qui est vraiment, même si c'est signé Cecil B. DeMille, en fait, Michael Eisen est co-réalisateur, en fait, littéralement. Et c'est un film qui, effectivement, il y a le côté emphatique de 2000, mais il y a aussi une élégance visuelle qui est très, très, très typique de l'Eisen, dont c'est le premier film, en fait, littéralement, en tant que réalisateur, mais qui dévoile déjà, en fait, tout ce dont il va être capable. Et il le dira lui-même, hein, qu'il doit énormément à Cecil B. DeMille. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de penser que Cecil B. DeMille, qui est aujourd'hui considéré comme qui a été un réalisateur très, très conservateur, qui prenait la religion, qui a pris des positions très controversées pendant le macartisme. Il savait très bien, évidemment, que Michael Eisen était homosexuel, et ça ne le dérangeait pas du tout, visiblement. Mais c'est que les années 20 à Hollywood, ça a été une époque assez spéciale, où, en fait, Hollywood, à l'époque, était l'un des très rares endroits aux États-Unis où on pouvait vivre sa vie sans être jugé par la société et de façon relativement ouverte, en fait. Il y a beaucoup d'homosexuels qui vont à Hollywood parce que c'est un peu une espèce de petite bulle artistique où tout est permis. Les années 30, bon, il y a le code qui s'installe, tout ça, mais quand même, il y a cette permissivité continue, et tout ça va changer, en fait, après la guerre, avec à partir de 45 jusqu'aux années 50, avec l'arrivée du macartisme, qui va changer vraiment, non seulement les mentalités, mais aussi le fonctionnement d'Hollywood, en fait, par rapport à la sexualité ou aux idées politiques des personnalités.
Ah ben d'ailleurs, il y a des metteurs en scène qui vont disparaître, hein. On parlait de James Whale tout à l'heure.
Oui,
complètement disparaître.
Absolument.
Et pourtant, c'était des gros réalisateurs. Ils signaient des gros succès.
Oui, et non seulement des gens très talentueux, mais qui en plus ont fait des films qui ont été des énormes succès. Mmh. C'était pas des réalisateurs de série Z. Mmh. Michael Eisen a signé quelques-uns des plus gros succès de l'histoire du cinéma à l'époque. Ça n'a pas empêché qu'il a été littéralement foutu à la porte. Thank you.
Vous écoutez Denis Rossano au micro de Culture Prohibée. Quand j'ai regardé sa filmo, il a quand même fait une quarantaine de films pour le cinéma. Il a fait au moins autant de réalisations pour le petit écran, dont des épisodes de la quatrième dimension et tout. Mais comment un tel un metteur en scène, quand même aussi prolifique, a pu être complètement invisibilisé de la sorte? Parce qu'après tout, James Whale, il a fait beaucoup moins de films. Et tous les amateurs de cinéma connaissent James Whale. Mais Michel Lezel,
c'est vrai. C'est vrai. Alors, vous avez utilisé un mot, invisibilisé, je ne sais pas si ça existe, mais c'est exactement ça. Il a été rendu invisible, en fait. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il a été victime de ses propres démons. Je pense qu'il y a eu un moment, et je l'explique dans ce que j'ai écrit dans les années 50, où il n'a pas compris le tournant qui était en train de se passer à Hollywood et aux États-Unis, en fait. Et donc, en fait, son comportement a fait qu'il a donné des armes à ses ennemis, en fait, pour se débarrasser de lui. Mais ceci étant dit, même s'il avait cessé de travailler, son cinéma ou ses films auraient pu continuer à être admirés et vus par tout le monde. Ce qui s'est passé, en fait, et ça aussi je l'explique, et c'est assez choquant, je trouve, et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques réalisateurs très très célèbres qui, en fait, ont mené une cabale contre lui par pure homophobie. Et parmi ces réalisateurs, il y a surtout deux très très grands, des géants de l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est Billy Wilder et Preston Sturges. Ce qui est très surprenant parce qu'on se dit, ces gens qui ont écrit des comédies très grinçantes, qui poussent le bouchon aussi loin que possible, comment ont-ils pu avoir de telles réactions? Alors, est-ce qu'ils étaient juste homophobes comme tout le monde l'était d'une manière un peu ordinaire à l'époque? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie parce qu'en fait, Michel Lysen a adapté en film plusieurs de leurs scénarios, mais il en a fait ses propres films. Il n'a pas respecté vraiment les mots, l'univers de Sturges et de Wilder. Il en a fait quelque chose d'autre. Je pense que ça, ils ne lui ont jamais pardonné. Une fois que Billy Wilder est devenu plus âgé et qu'il est devenu une espèce de dieu du cinéma, il s'est permis des mots absolument terribles sur Michel Lysen. Et je pense qu'en fait, toute une génération d'historiens du cinéma, de cinéphiles et de cinéastes, en fait, ont vraiment suivi, écouté ce que pouvait dire Lysen, ce que pouvait dire Billy Wilder sur son collègue. Et vraiment, il a détruit sa réputation. Et Michel Lysen, la réputation de Michel Lysen ne s'en est jamais remise, en fait. Et toujours aujourd'hui, il reste méconnu. Plusieurs de ses films ont été restaurés, mais son nom n'est jamais vraiment évoqué parmi les très grands du cinéma hollywoodien.
C'est très très étonnant. Preston Sturges peut-être moins, mais Billy Wilder, c'est pas l'image que renvoie son cinéma, mais bon, c'est ainsi.
Mais je pense qu'en fait, la jalousie, l'amertume qu'ils ont ressentie, ils l'ont exprimé à travers une homophobie qui était l'arme facile à employer, en fait. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ils n'emploieraient peut-être pas les mêmes mots, ils trouveraient une autre raison. Mais je pense que c'est vraiment à la base, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Et il y a aussi une différence dans la conception même du cinéma. C'est-à-dire que Michael Eisen, il vient du cinéma muet. Il est arrivé à Hollywood en 1919 et il travaille énormément pendant toutes les années 20. Et donc pour lui, le cinéma est un médium purement visuel. Le visuel passe avant les mots. Billy Wilder, il vient du scénario. Donc pour Billy Wilder, tout est dans l'écriture. Et je pense que c'est vraiment deux conceptions qui s'opposent. Et c'est là où ça va clasher, c'est-à-dire que quand les adaptations que va faire Michel Lysen des scénarios de Billy Wilder, ça ne correspond pas en fait à ce que veut, à ce qu'imagine Billy Wilder. Et c'est la même chose avec Preston Sturges, qui est aussi dans les mots, dans les dialogues énormément. Et quand on compare leurs films, on voit bien que le cinéma de Lysen est beaucoup plus festif, j'ai envie de dire, sur un plan visuel. Wilder et Sturges, ils se concentrent sur les échanges de dialogue. Donc, je pense que c'est vraiment la base. Et l'homophobie, c'est l'arme qu'on utilise le plus facilement à l'époque.
Vous l'avez dit à l'instant, effectivement, Michel Lysen, c'est un cinéaste qui vient du muet. Et moi, alors, considération qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je le rapproche un peu de Roubaine Mamoulian, je trouve, dans cette.
Vous avez pas. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait juste. Ouais.
Donc, vous voyez dans ce que je veux dire, dans son esthétique, parce que Mamoulian passé pareil, du muet au parlant, et on retrouve pour moi, dans leurs cinémas respectifs, c'est pas les mêmes cinémas, mais des similitudes dans la forme, je trouve. Mais bon, après...
Dans la forme, et dans ce que j'ai envie de dire, c'est difficile à expliquer par des mots, mais il y a une espèce de... Tous les deux ont une espèce d'élégance visuelle, je trouve. Et notamment dans leurs films des années 30. Effectivement, on peut les comparer à ce moment-là. Mamoulian a beaucoup travaillé dans les années 30. Et oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a une similitude. Et même après, ensuite, quand Mamoulian va se lancer dans le Technicolor, à peu près à la même époque où Michel Eisen va le faire, ils ont aussi une utilisation de la couleur qui est absolument sidérante, tous les deux. Et qui est très, très personnelle. Donc, ouais, je trouve que c'est une très, très bonne comparaison.
Ouais, bah merci. Bon, ça, on a vu les mêmes films, ça va alors. Après, comment dire... On en parle depuis tout à l'heure. Bon, Michel Eisen était homosexuel, voire même bisexuel, hein, plutôt d'ailleurs, quand je lis le livre. Et c'est quand même. Il a souffert de tout ça parce qu'en lisant le livre, là, on découvre donc le livre Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif que vous avez signé, Denis Rossano, et qu'accompagne le coffret sorti chez Éléphant de Film. Là, on découvre quand même que Michel Eisen aussi a tenté de se soigner de son homosexualité. C'est quelque chose qui vivait mal.
Alors je pense que comme beaucoup de personnes d'hommes à l'époque, il vivait très mal son homosexualité, même s'il était dans un milieu où il pouvait la vivre plus ou moins ouvertement. Alors il était bisexuel, il a même été marié avec une femme, il a eu des liaisons avec des femmes, mais quand même, plus les années passent, plus en fait il s'affirme homosexuel et il s'affiche homosexuel, et en même temps, il le vit très mal, il est... Probablement quelqu'un, d'après ce que j'ai compris dans la biographie de Thierry Ketty, il est très romantique, il est à la recherche du grand amour, et c'est pas par hasard qu'à cette époque-là, il tourne ses films les plus merveilleusement romantiques, et en même temps, il voudrait devenir autre, il suit une psychanalyse à un moment, ce qui va beaucoup influencer son cinéma, et ça c'est assez fascinant, c'est de savoir que quand on regarde certains de ses films, en sachant qu'il était sous psychanalyse, certains de ses films ont un côté très psychanalytique. Mais d'une façon, c'est pas des films psychanalytiques dans le sens sérieux du mot, j'ai envie de dire. C'est plus dans la manière dont on peut les analyser, en fait. Il y a, dans le cinéma de Michel Eisen, une richesse qui est presque inattendue, parce qu'on voit d'abord le côté esthétique dont on parlait, on voit le côté... soit très amusant parce qu'il a fait beaucoup de comédies, soit virevoltant, des choses comme ça. Mais derrière, en fait, il y a un amoncellement de sujets plus ou moins subversifs qui en font justement l'un des réalisateurs les plus subversifs de son époque. Et je ne pense pas que les gens en étaient conscients à l'époque. En fait, je pense que c'est que seulement aujourd'hui, en regardant ces films, en sachant de quelle manière ils ont été faits et ce qui se passait dans la tête de Michel Eisen, qu'on réalise à quel point il était subversif.
Oui. Il était subversif, on l'a dit tout à l'heure, il était flamboyant. Il donnait aussi beaucoup de place aux femmes dans ses films.
Je pense que c'est très important, c'est-à-dire que dès le début de sa carrière, son premier film, en fait, c'est pour l'actrice Gloria Samson, qui à l'époque était vraiment une des plus grandes stars du monde. Et il a toujours été un cinéaste proche de ses actrices. Que ce soit les plus grandes stars féminines de l'époque, alors il a tout dirigé à la Paramount. Il était donc en contrat avec la Paramount. Donc toutes les stars de la Paramount, Carole Lombard, Paulette Goddard, Claudette Colbert, Jean Arthur, elles sont toutes passées dans ses films et il leur a donné des rôles merveilleux. Mais aussi des petites starlettes. Il y a des starlettes oubliées de nos jours dont il était très très proche. Et je pense qu'il a... Alors là, ça fait partie de ses réalisateurs. George Cukor, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. Si on a les quelques mots un peu accusateurs, j'ai envie de dire, qu'on a lancés contre lui, c'était un réalisateur de femmes. On a beaucoup dit ça de George Cukor, ce qui était une manière de dire qu'il était homosexuel. Il y a un peu la même chose chez Michel Eisen, c'était un réalisateur de femmes. C'est vrai qu'il a donné à ses femmes leurs plus beaux rôles, quelques-uns de leurs plus beaux rôles, mais en plus, allant plus loin encore, dans beaucoup de films de Michel Eisen, il retourne les rôles tels qu'ils étaient habituellement assignés. C'est-à-dire qu'on voit dans les films de Michel Eisen des actrices célèbres qui tiennent en fait le rôle habituellement assigné à un homme. Ce sont des femmes fortes qui dirigent, qui mènent l'histoire, et les hommes sont réduits presque à des sortes d'objets passifs sexuels. Et c'est très très étonnant, et c'est assez rare pour l'époque. Et c'est assez, on retrouve ça dans beaucoup de ses films, donc c'est pas par hasard. C'est vraiment quelque chose qu'il a nourri lui-même, en fait. Et même s'il a fait beaucoup de films de commande, donc il choisissait pas forcément tous les sujets qu'il mettait en scène, mais on retrouve ça dans quand même beaucoup, beaucoup de ses films.
Vous écoutez Denis Rossano, auteur de Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif, paru chez Éléphant de Film, au micro de Culture Prohibée.
Ce qu'on comprend aussi, c'est que Mitchell Leisen, alors du fait qu'il maîtrisait tout, qu'il connaissait plein de choses sur les différentes facettes du métier et tout, et qu'il était aussi très flamboyant, qu'il organisait des fêtes incroyables. D'ailleurs, il a fini plutôt misérable, hein, d'ailleurs. Hein,
parce que misérable.
C'est ce qui est écrit dans le livre, hein, mais c'était une descente aux enfers. Mais en même temps, c'était un type particulier, parce que visiblement, il était assez harceleur avec ses acteurs, tout ça. Enfin, c'est un drôle de mec, quand même. C'était un drôle de type.
C'est très étonnant. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été victime. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été cancelled. Il aurait été. Je pense qu'à Hollywood, ce serait plus possible aujourd'hui. Et c'est vrai. Alors, c'est vrai. Je pense, c'est surtout à partir des années 30, vers la fin des années 30, début des années 40, où il se lâche, en fait, j'ai l'impression. Et il se permet des gestes qui sont inacceptables. Il drague très lourdement certains de ses acteurs. Ça mettait certains, par exemple Fred McMurray, avec qui il a beaucoup tourné. Mais Fred McMurray était quand même très très mal à l'aise quand Michel Leisen tournait autour de lui. Mais parallèlement, c'est Michel Leisen qui lui a donné quelques-uns de ses plus beaux rôles. Et c'est dans les films de Michel Leisen que Fred McMurray est le plus sexy. C'est pas un acteur spécialement sexy en général, mais chez Michel Leisen, il a une aura sexy. C'est quand même ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il se permet de plus en plus des comportements douteux. Et qui sont acceptés, en fait, par le studio, parce que il est l'un des réalisateurs qui rapporte le plus d'argent au studio, en fait. Quand sa carrière va commencer à décliner, et en même temps, il y a une espèce de retournement politique dans la société américaine, là, ça va moins passer. Et en fait, il va y avoir plusieurs incidents qui vont être utilisés comme prétexte pour, en fait, se débarrasser de lui, en fait. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il n'a pas su contrôler ses démons, j'ai envie de dire, et que forcément, oui, il a contribué à sa propre chute. C'est une évidence. On ne peut pas juste accuser le système des studios et quelques réalisateurs homophobes. Il a contribué à sa propre chute, ce qui rend, je trouve, ces dernières années absolument poignantes, en fait. Je trouve que la fin de Michel Leisen a quelque chose de très triste. Et je trouve que, du coup, c'est quelque part... C'est réparateur de pouvoir parler de lui aujourd'hui, de pouvoir redécouvrir son cinéma, c'est lui redonner une place qu'il a perdue, mais il a contribué à cette perte, en fait, d'une certaine manière.
Oui, c'est une destinée. On sent quand on lit le livre, là, Mitchell Leisen, Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif, c'est vraiment une destinée particulière, parce qu'il est à la fois victime et à la fois son propre bourreau. C'est assez étonnant. Et puis aussi, oui, c'est quelqu'un qui était, mais à l'image d'autres, en fait, qui ont eu des comportements déplacés, hétérosexuels ou homosexuels. D'ailleurs, Martin Scorsese, dans la série là, qui a été faite sur lui, qui est passée sur Apple, qui est disponible sur Apple TV, et qui est très intéressante, hein, voilà, et Scorsese, à un moment dans le documentaire, on lui parle de ce qui se passe avec Me Too. Bon, on lui dit que c'est très bien, tout ça, voilà, il y a là-dessus. Mais il dit, en fait, c'est l'histoire d'Hollywood. Il dit, en fait, aujourd'hui, il dit, on en parle, et tant mieux parce que ce n'est pas acceptable, mais c'est l'histoire d'Hollywood. C'est-à-dire que ces débordements, malheureusement, ils ont toujours été là, en fait.
Ah, mais toujours. Mais ils sont et ça fait partie de la fondation même d'Hollywood. Alors, notamment, c'était évidemment beaucoup plus évident chez les hétérosexuels, où tous les studios étaient dirigés par des hommes qui ont tous abusés de manière plus ou moins énorme de leurs actrices et des réalisateurs avec leurs actrices. Alors on peut citer le cas d'Hitchcock quand même, qui est aujourd'hui et qui était un harceleur monstrueux. En fait, je pense que une grande majorité de réalisateurs et de dirigeants du Hollywood de la grande époque seraient aujourd'hui mis à la porte. C'est une évidence. Ce que je trouve intéressant, c'est que, ou, qui prête à réflexion, c'est que quelqu'un comme Michael Eisner, parce qu'il était homosexuel et que donc, en fait, il harcelait de manière douteuse les hommes, était victime beaucoup plus vite, en fait. Il en était victime à l'époque même où ça se passait, alors que ni Hitchcock ni les grands patrons des studios n'ont été victimes de quoi que ce soit.
Oui, mais c'est pour ça que je posais la question. C'est bien aussi, il a aussi payé son homosexualité dans cette histoire.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Je pense que c'est assez clair. Alors, si on revient là sur les films du coffret, alors on a déjà parlé du Signe de la Croix de 32. Il y a aussi un film, moi, que je trouve assez fascinant, un film de 34. C'est le deuxième de Leysen. C'est La mort prend des vacances, qui est en fait un film assez étrange parce qu'en fait, ça raconte. Une histoire d'amour avec la mort, ce qui est déjà quelque chose d'assez une idée assez étonnante. Et en plus, et c'est là que j'ai été scotché, donc je me dis, je ne connais pas Michael Leysen, et en fait, ce film, il a été remaké avec Brad Pitt, sous le titre « Rencontre avec Joe Black ». C'est quand même incroyable, cette histoire.
Oui, oui, oui.
Et donc, on ne connaît pas Leysen, mais les studios, ils savent très bien ce qu'ils ont dans leur catalogue.
Exactement, ils savent très bien ce qu'ils peuvent refaire selon leur catalogue. Et tout le monde, enfin tout le monde, la génération d'aujourd'hui connaît le film avec Brad Pitt, qui n'est pas très très bon. Et par contre, ignore complètement le film original, qui est un petit bijou. C'est une merveille, ce film, je trouve. Alors là, je trouve que ça donne un exemple parfait de l'inspiration esthétique de Leysen. C'est-à-dire qu'on est dans un univers, c'est censé se passer en Italie, mais c'est vrai, visiblement une Italie complètement... imaginez, dans un espèce de palais baroque, et c'est à la fois très romantique, très mélancolique, mais c'est aussi presque une méditation philosophique, en fait. Ce que ça dit sur la mort, accepter la mort, c'est presque aussi, j'ai envie de dire, presque un film sur le suicide, d'une certaine manière. C'est un film qui a beaucoup marqué son époque, c'est-à-dire quand il est sorti, ça a été très remarqué et par le critique et par le public et par beaucoup de gens ont écrit au studio en fait, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce film, donc ça répondait à quelque chose de l'époque et je trouve que le film est plus il y a quelque chose de plus inspiré dans ce film-là que dans le remake avec Brad Pitt et il y a un acteur qui est un des acteurs fétiches de Michael Leysen, qui est Friedrich March, qui incarne la mort. En fait, la mort vient sur Terre et prend les allures d'un jeune aristocrate, d'un jeune homme très beau. Et Friedrich March est absolument merveilleux. Et face à lui, il y a une actrice complètement oubliée, qui s'appelait Evan Venable, et qui est délicieuse, je trouve. Et je trouve que c'est un film très émouvant, en fait, et qui fait réfléchir, en fait. C'est vraiment, pour moi, un des bijoux du coffret.
Autre film présent dans ce coffret, Michael Leysen, là, qui est édité par Elephant Film, et qui, moi, m'a fait quand même plutôt halluciner. Enfin, c'est un vrai film pré-code, parce qu'on s'était déjà vu pour parler de cinéma pré-code. C'est même la première fois que vous étiez venu dans l'émission, qui s'appelle Rythme d'amour. Et alors là, c'est une sorte de comédie musicale façon Ziegfeld Follies, mais avec un Wood Unit à la Agatha Christie. C'est libidineux à souhait, c'est tordu, c'est dément.
C'est très libidineux.
C'est un drôle de film. Il y a une ode à la marijuana, claire. Il y a un premier gag avec marqué « Ici entre les plus belles femmes du monde » et il y a un travesti qui sort.
C'est hallucinant. Ouais.
Ah ouais, non, mais il y a un ode à l'homosexualité dans une chanson, la poule qui glousse, le viol nègre avec Duke Ellington. Il va loin. Enfin, il va très loin.
Il va très loin. Et c'est pour ça que le film est considéré aujourd'hui comme l'un des films les plus extraits de l'ère pré-code et qu'il est devenu très culte, le film. Dans les années 60, en fait, au moment de la libération des mœurs américaines, beaucoup de gens ont redécouvert le film qui a quelque chose de très jouissif. C'est un film qui c'est un plaisir de le regarder, on rigole. Et même les meurtres, on prend presque plaisir, en fait, à voir ces meurtres. Il y a quelque chose de... On sent qu'il s'est délecté à faire ce film, qui n'a pas des très grands stars, enfin, qui a des stars de l'époque, mais qui sont complètement oubliés aujourd'hui, à part Victor McLaglen, qui est d'ailleurs dans un rôle assez étonnant. C'est l'un des symboles les plus parfaits du cinéma pré-code. Et je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait se permettre de faire un film équivalent, en fait.
Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire parce qu'il y a des choses... qui sont sincèrement qui ont un regard presque colonialiste, je veux dire, enfin quoi.
Et puis oui, bien sûr, voilà, c'est le regard de l'époque.
Bah,
oui.
Exactement, qui sont du regard de l'époque, mais il y a bon, je pense qu'il y a d'autres choses et que je sais pas si ça parlerait en fait au public d'aujourd'hui aussi, qu'on pourrait faire, mais qui je sais pas si
oui,
ça...
ce serait différent, c'est vrai. Mmh. Ouais.
Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un film. Moi j'étais scié comme on dit quand j'ai vu le film. et puis bon, qui détonne un peu parce que par exemple autre film du coffret qui est très bien, hein, mais le film avec Carole Lombard là et Mac Murray qui est oui. quasiment c'est une franchise, c'est Jeu de main en 35, c'est une comédie romantique, mais c'est déjà plus classique. Là c'est pas classique quand même.
Oui, oui, là, il y a quelque chose de complètement délirant, et mais c'est que le film avec Lombard et Mac Murray, c'est au moment où le code de la censure est installé. Donc je pense qu'on voit vraiment la différence.
C'est un peu pareil, je suppose, avec ce fameux film, donc avec le scénario de Preston Sturges, bon, qui est assez burlesque quand même avec Jean Arthur, là, qui est... bon, il y a quand même la super idée que tout part d'un manteau. Le film de 37, oui. la vie facile... c'est plus classique, mais là, j'ai envie de dire, on sent qu'il arrive à s'immiscer dans des interstices pour proposer autre chose, même politiquement d'ailleurs, c'est intéressant.
Oui, 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 oui. Je pense qu'en fait, il utilise les codes de la comédie loufoque, ce qui s'appelle ici la screwball comedy, pour faire passer certains messages, en fait. Et c'est un film aussi... Alors, les deux films que vous citez, celui avec Jean Arthur et celui avec Carole Lombard, sont à la fois des comédies très, très drôles, mais il y a aussi quelque chose de très mélancolique dans ces films, dans ces deux films, je trouve, et notamment dans les scènes romantiques. Et du coup, ça bascule parfois dans une espèce de tendresse qui rend ces films-là émouvants, alors que les comédies de l'époque, aussi drôles qu'elles puissent être, ne sont pas forcément émouvantes, en fait. Et ça, c'est la petite touche de l'Eisen, je crois. With your caress, with marijuana, marijuana. My distress, sweet marijuana, please do. You alone can bring my lover back. Vous écoutez Denis Rossano, auteur de Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif, paru chez Éléphant de Film, au micro de Culture Prohibée. And then put me to sleep, sweet marijuana. Marijuana. Autre film qui a un côté doux amer aussi, donc on peut vraiment dire du coup que c'est sa touche, hein, c'est sa Lizen touch comme on dirait, c'est le film avec Fred McMurray et Barbara Stanwyck là, qui est l'aventure d'une nuit qui est de 38, qui est aussi dans le coffret. C'est même, j'ai envie de dire, un film qui se rapproche de La mort prend des vacances, quoi. C'est des films assez proches, je trouve. C'est là qu'on voit quand même que même si c'était un faiseur, il y a des choses qu'on retrouve de film en film. Absolument. Et d'ailleurs, il y a certains des grands défenseurs de l'Eisen qui pensent que c'est un vrai auteur, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il y a une similitude avec La mort prend des vacances, même si le sujet est complètement différent. Mais c'est des films qui mêlent à la fois beaucoup d'humour, qui sont très très drôles, mais qui sont infusés par une tristesse qui est, je pense, vraiment... c'est la personnalité de l'Eisen, je crois. Et qui en plus, alors le film avec Barbara Stanwyck et Fred McMurray, il bénéficie de la présence d'une actrice extraordinaire qui est capable de virer des larmes au rire avec une aisance incroyable. Et le film va d'un genre à l'autre, c'est-à-dire que le film n'est jamais, il reste jamais dans la petite bulle, soit du mélodrame, soit de la comédie. Il glisse en fait avec une c'est assez étonnant la facilité avec laquelle l'Eisen va d'un genre à l'autre à l'intérieur d'un même film, et ça fonctionne. Et ça ne se termine pas vraiment par un happy end. C'est assez étonnant pour l'époque. Y a une espèce de... C'est plus un point d'interrogation. Y a une mélancolie que je trouve très, très prenante, en fait, dans ce film-là. Et je pense qu'elle est très, très symbolique du cinéma de l'Eisen.
Elle est toujours présente dans un autre film du coffret hein, qui s'appelle Réveille-toi mon amour, un film de 1940 avec oui. Claudette Colbert et Rémy Land, un de ses chouchous. Et oui. Le film, en plus, il a un scénario quand même assez étonnant aussi, avec l'histoire de cette journaliste intrépide, là, Claudette Colbert, qui sauve un Américain venu soutenir les Républicains en Espagne. C'est un pitch assez étonnant pour la période, quand même. C'est un pitch étonnant.
Tout à fait étonnant. Là encore, on retrouve une des caractéristiques du cinéma de Lysen, c'est-à-dire une femme très forte qui, en fait, est le cœur de l'histoire et qui est plus importante et plus forte que l'homme. Mais c'est aussi un film qui est tourné à l'aube, vraiment, c'est avant que les États-Unis rentrent en guerre, mais on est quand même très proche du moment où ça va arriver. Et donc la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Europe, on en parle énormément forcément aux États-Unis, et le film prend position, ce qui n'était pas évident à l'époque, parce que les États-Unis étaient quand même très isolationnistes. Et donc Hollywood ne s'engageait pas vraiment, ils allaient quand même très, très timidement. Et le film est ouvertement non seulement pro-républicain en Espagne, mais vraiment se prononce par rapport à tout ce qui se passe en France et avec l'Allemagne et tout ça. Et comme il est tourné au moment où les événements se passent, en fait, le scénario change au fur et à mesure, en fait. Donc il y a des choses qui sont déroulées au moment, historiquement, au moment où le film se tourne, qui sont incluses du coup dans le film. C'est un film qui, moi, bah, même si c'est différent dans la tonalité, qui m'a fait penser à Casablanca. Je trouve qu'il y a, ce même... Et encore une fois, j'utilise le mot mélancolie, mais c'est ce que c'est, je pense vraiment, on retrouve ça de film en film, mais je trouve que c'est très très prenant, on le sent vraiment dans ce film-là, et il y a l'espèce d'alchimie entre Claudette Colbert et Rémi Land, qui tous les deux, on sent qu'ils se donnent à cœur joie dans ce film, et Claudette Colbert d'ailleurs, qui était vraiment l'une des plus grandes stars de l'époque, et la star numéro un de la Paramount, a souvent dit que c'était son film préféré. Elle a une très longue carrière, hein, mais elle a toujours dit que c'était l'un de ses films préférés, sinon son film préféré.
Ouais, d'ailleurs, on peut peut-être expliquer aussi, parce que c'est étonnant politiquement quand même, ce positionnement de Michel Lezen, mais ça peut peut-être aussi s'expliquer parce qu'à l'époque, et ça, moi j'ignorais ça, je l'ai découvert en lisant Denis Rossano, donc votre livre, La gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif qui accompagne le coffret sorti chez Éléphant de Film, c'est qu'en fait, il essayait d'adapter... Johnny Got His Gun de Trumbo, de Dalton Trumbo.
Mais oui, alors moi aussi, en fait, j'ai découvert ça en faisant mes recherches. On connaît tous le film, le roman et le film culte des années 70, mais qui date donc de l'époque. Et il était vraiment. Alors, il était très au fait de ce qui se passait politiquement en Europe, de la guerre et tout ça. Et il a essayé de monter plusieurs sujets qui étaient liés à cette époque-là. Johnny Got His Gun, il n'a pas pu le faire. Je pense que c'était plus un problème d'adaptation. Et puis il voulait l'acteur William Holden qui était très jeune à l'époque, mais William Holden n'était pas en contrat avec la Paramount, enfin ça a été compliqué et du coup le film n'a pas pu se faire, mais j'aurais été très très curieux de voir ce qu'il en aurait fait, comment Michael Lazen aurait pu adapter Johnny Got His Gun. Ça c'est très très étonnant,
surtout que le film qu'on connaît est déjà un film très marquant.
Oui.
Alors
oui.
Cette vision là qui aurait été une vision hollywoodienne, qu'on aurait pu confronter peut-être à cette vision un peu plus nouvelle Hollywood, entre guillemets, du film de Trumbo. Enfin, c'est curieux.
Oui, alors, parlant de politique, il y a un film qui n'est pas inclus dans le coffret, qui s'appelle Par la porte d'or, qui est un film qui est sur l'immigration, et l'immigration illégale. Donc c'est un sujet brûlant aujourd'hui. Et de voir le traitement qu'en fait Michael Lazen, c'est absolument étonnant. Et je recommande... Le film existe en Blu-ray ici aux États-Unis, je ne sais pas s'il existe en France, mais c'est un film absolument... C'est vraiment magnifique. C'est un des grands chefs-d'œuvre de Michael Lazen, avec un casting incroyable, Olivia de Havilland, Charles Boyer et Paulette Goddard, et qui parle d'un sujet très actuel, avec une modernité qui est allié au romantisme et à la mélancolie de Lysen. Ça, vraiment, ça mérite le détour.
Oui, bah, il fait aussi un autre film avec Olivia de Havilland. J'ai gardé mon film le plus étonnant pour la fin. Mais c'est À chacun son destin, qui est quand même un incroyable... Alors là, on est dans le mélo. Bon, il y avait déjà du...
On est dans le mélo absolu.
Voilà, on est dans le mélo, vraiment. Mélo féminin.
Ouais.
Et c'est pareil, le sujet politiquement, enfin, c'est un sujet qui est... Pour moi, assez peu abordé, Aïda Lupino le fera, par exemple, mais c'est le sujet de ce qu'on appelle, j'aime pas cette expression, mais bon, la fille mère, voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est gonflé, en fait.
C'est gonflé. Alors, c'est un sujet qui était très, très à la mode dans le cinéma des années 30. Pas mal de mélodrames des années 30 montrent ça. ce qu'ils appellent aux États-Unis les women's pictures, c'est-à-dire les films de femmes, c'est-à-dire des mélos féminins faits pour un public féminin. Il ne faut pas oublier que le public féminin, à l'époque, était le public numéro un. Il y avait un nombre incroyable de femmes qui allaient au cinéma, donc Hollywood faisait des films pour les femmes, comme aujourd'hui, Hollywood fait des films pour les ados. Et donc c'était un sujet qui, je pense, était très proéminent parce que c'était une réalité qui se passait dans la société américaine. C'était un vrai problème. Donc, quand Leisen aborde le sujet, en fait, il n'est pas fan vraiment de l'histoire qui a été écrite par Charles Brackett, qui était un des très grands scénaristes de l'époque. Mais en fait, il a compris comment il pouvait adapter ce sujet à sa manière à lui. Et du coup, il nous donne... c'est du vrai grand mélodrame, mais il ne tombe jamais dans ce qui pourrait être sirupeux ou dans le sentimentalisme trop facile. Y a un côté presque réaliste avec lequel il filme cette histoire qui se déroule sur plusieurs décennies. Et il bénéficie de la présence d'Olivia de Havilland, qui d'ailleurs, c'est elle qui voulait que Michel Leisen la dirige. Il y a d'autres réalisateurs qui étaient que le studio voulait utiliser. C'est elle qui a choisi Michel Leisen. Et sa performance, qui est vraiment soutenue par le travail visuel, la caméra et la direction de Michel Leisen, donne au film une puissance émotionnelle qui, je trouve, est assez inattendue et qui, effectivement, a des résonances politiques, du coup, parce qu'on voit bien, ça nous montre bien les petites mentalités de l'Amérique et ce côté très conservateur dont les femmes sont les victimes.
Oui, on va dire que c'était plus un sujet... En fait, c'est plus un sujet de film pré-code. Mais une fois qu'il y a eu le code,
oui,
c'est plus des films qu'on voyait. Quoi.
C'est plus les films des années. Et pourtant, il arrive à en faire un film de son époque. C'est ça, c'est assez étonnant, en fait. Il utilise les codes du mélodrame pour mieux les contourner, en fait. Et là encore, c'est là où le mot subversif le va bien, en fait, je trouve.
J'ai gardé ce film pour la fin parce que alors ça a été une claque. L'aventure vient de la mer.
On est en 44.
Technicolor flamboyant. On se croirait chez Powell et Pressburger. Enfin voilà, les chaussons rouges et tout. D'ailleurs, il y a énormément de points communs entre leur cinéma et celui de Leisen. Je lis dans le livre... écrit par Vossoin de Niro Sano, qui accompagne ce coffret Michel Leisen, que, en plus, sur le tournage, visiblement, c'était apocalyptique. Leisen était hors de contrôle. Et au final, ça donne une sorte de film en fiévrait, là, comme une sorte de... Je sais pas... film de Dmitrik, revu et corrigé par Powell Pressburger. Enfin, je sais pas. C'est un film vraiment dingue. Hein, et, alors ça je
c'est
ne m'explique
dingue.
Pas que ce film soit passé entre les radars, par contre. Parce que là...
Alors, et en plus, le film a été un succès colossal à l'époque. Donc, c'est pas un film qui a été un bide ou qui est passé inaperçu. Alors, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, pendant très très longtemps, il n'y a pas eu de copie disponible du film et qu'on pouvait le voir que dans des vraiment dans très mauvais état. Donc, la restauration présentée par le coffret, c'est vraiment une mine d'or. C'est un film incroyable. Alors, c'est adapté d'un très gros best-seller de Daphné du Maurier, que les gens connaissent pour Rebecca, notamment. qui s'appelle La Crique du Français, qui est d'ailleurs, je crois, est toujours disponible en livre de poche ou quelque chose comme ça, qui est un livre, un best-seller d'aventure, qui présente en fait un sujet qu'adore forcément Leisner, une femme qui prend la place d'un homme. Littéralement, là dans le film, littéralement, elle se fait passer pour un homme. Mais c'est dans le contexte historique d'une Angleterre du XVIIIe siècle, c'est le milieu des aristocrates, c'est le milieu des pirates, ce qui permet à Leisner de se déchaîner visuellement. C'est la plus grosse production de l'histoire de la Paramount à l'époque. Ça coûte une fortune. Le film est tourné en dehors des studios, enfin il y a quelques scènes d'intérieur de studio évidemment, mais pas mal de scènes sont tournées à l'extérieur, du côté de San Francisco pour les paysages, et là Leisner en fait se lâche et personne ne le contrôle. Donc du coup le budget va exploser, il va y avoir des problèmes de tournage, Joan Fontaine qui est la star du film, qui est excellente dans le film, mais elle déteste en fait participer à ce tournage, donc c'est un tournage, c'est chaotique, c'est le chaos absolu. Il va en résulter un film que je trouve visuellement extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux films en Technicolor de l'histoire d'Hollywood, qui me fait penser aussi à Ambre de The Preminger, qui est pareillement, je trouve, une splendeur visuelle. Mais en plus de cela, le film, il regorge de thématiques, mais encore une fois, on utilise le mot subversif, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça remet en cause la théorie du genre, ça propose la théorie du genre, j'ai envie de dire. C'est très, très, très étonnant. Et en plus, au niveau pour le spectateur, c'est d'abord un film d'aventure incroyable. Il se passe des choses incroyables dans ce film. Donc, c'est vraiment la perle du coffret, parce que justement, il a été invisible pendant si longtemps.
Et alors, là, on a fait le tour des films du coffret. On a parlé du livre que vous avez signé. Donc, pour ce coffret, Mitchell Leisner, et le livre, c'est Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif. Tout ça, c'est disponible de Niro Sano chez Éléphant de Film. Mais dans le livre, vous nous donnez aussi des petites pistes vers des films de Mitchell Leisner qui ne sont pas dans le coffret, justement. Et il y a des films qu'on a très, très envie de voir. Et là, je pense, moi, parce que là... vous citez Pierre et Gilles, vous citez Le Narcisse Noir, qui est un de mes films préférés, oui, de Powell et Pressburger, film que j'adore. C'est Le Chant du Berceau. Enfin, et du coup,
alors, Le Chant du Berceau est quasiment invisible. Il n'existe pas, même ici, on ne le trouve pas en Blu-ray ou en DVD. J'ai réussi à le voir il y a pas mal de temps. C'est très, très étonnant aussi, Le Chant du Berceau. Alors là, on est aussi dans le mélodrame, avec une connotation religieuse, mais sans que ce soit du prosélytisme. Effectivement, un critique parle de Pierre et Gilles, et c'est vraiment, c'est évident, quoi. Mais on retrouve, je trouve, Pierre et Gilles dans le dernier film du coffret, Les Anneaux d'Or. Ça aussi, il y a un esthétisme qui est vraiment proche de l'univers de Pierre et Gilles au niveau de la manière dont le film est tourné. Donc, c'est des films étonnants. Il y a un autre film qui mériterait d'être redécouvert en France. Il existe ici, aux États-Unis, en Blu-ray. C'est le film qui a donné lieu à un remake français connu, le film avec Nathalie Baye, qui s'appelle « J'ai épousé une ombre », je crois que c'est le titre français. Le titre original du film de Mitchell Leisner, je le cherche, c'est, je crois, « Chaîne du destin » en français, qui s'appelle « No Man of Her Own » en anglais, qui est une adaptation d'un roman de William Irish, et c'est incroyable. C'est du romantisme fiévreux, c'est du film noir, c'est du suspense, c'est du mélodrame. Mais vraiment, courez si vous arrivez à le trouver, c'est une merveille. Et encore une fois, c'est Barbara Stanwyck à son sommet. Donc il y a plein de petites perles comme ça. Il y a un autre film qui est très étonnant, qui a été en fait, qui a marqué la fin de la carrière littéralement de Mitchell Leisner, dans le sens où ça a été le début de sa ruine, qui s'appelle Échec au Borgia. Qui n'est pas vraiment une totale réussite sur le plan du scénario, mais visuellement, c'est encore un grand délire. Ça se passe à l'époque des Borgia, et on peut imaginer ce que Mitchell Leisner fait avec l'époque des Borgia. Il y en a un autre qui est une splendeur, qui a été un de ses plus gros succès, qui s'appelle La Duchesse des Bas-Fonds, avec Paulette Goddard, qui se passe encore dans l'Angleterre du 18e. Et c'est vraiment, on est dans... C'est comme si que les tableaux de Gainsborough, de Thomas Gainsborough... Et c'est merveilleux. C'est un peu un scénario à la Pygmalion avec donc Paulette Goddard et Ray Milland, encore une fois. Et c'est une merveille. Mais ces films-là sont assez difficiles à trouver, où on les trouve dans des copies qui sont pas excellentes. Et c'est vraiment dommage.
Bah écoutez, Denis Rossano, nous on vous remercie pour cette passion qui vous habite comme à chaque fois. Et c'est toujours un, c'est toujours un plaisir d'échanger sur ce cinéma qu'on aime tant. Bah écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau pour parler, pourquoi pas, de sortie de ces prochains films de Mitchell Leisen. Pourquoi pas, rêvons, espérons que ça arrive un jour. Et un grand merci pour être venu dans notre émission. Et on rappelle donc que votre ouvrage, c'est « Gloire, discrédit et oubli d'un esthète subversif », qu'il est glissé au sein du coffret « Mitchell Leisen, portrait d'un esthète » et qui est donc disponible chez Éléphant de Film.
Absolument, et que tous les cinéphiles devraient avoir sur leur rayon, parce que c'est vraiment une pépite. Je trouve que ce sont des films oubliés qui méritent absolument d'être découverts.
Delight to be given the right to be carefree and gay once again. No longer slinking, respectably drinking like civilized ladies and men. No longer need we miss a charming scene.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission rendue possible grâce à la complicité technique de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine. But my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Just any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Any afternoon at five,
Sunday at five,
we'll be so glad we're both alive.
We'll be so glad we're alive.
Then maybe fortune will complete
her plan.